Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». « Regarde ailleurs », c'est vraiment cette envie d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde à travers des rencontres, des expériences de vie, des rêveurs comme toi. Hein, tu disais hier en projection que tu as réalisé un rêve de gosse qu'on va découvrir dans cette émission. Donc avec nous, Yann, hein, j'aime bien interviewer des réalisateurs, des explorateurs, des aventuriers. Toi, je ne sais pas dans quelle case te mettre, on va dire rêveur. J'aime bien cette case du rêveur qui se met en mouvement pour réaliser son rêve. Et ce rêve-là, c'est un rêve un peu fou de faire un tour du monde avec un bateau que tu as auto-construit. Donc on va peut-être revenir il y a longtemps dans le passé, parle-moi de la création de ce rêve. Ou donne-nous un petit peu d'infos sur toi et le rêveur que tu es.
Alors, le rêveur, oui, ça me convient assez bien. L'origine de ce rêve, de faire le tour du monde sur un petit bateau, ça c'est... Alors, dans ma famille, personne ne fait du bateau. Je suis breton d'origine, mais il n'y a pas de marin dans ma famille, ni dans mes ancêtres. Mais c'est un petit peu... J'étais un petit peu très renfermé enfant, et je ne connaissais pas évidemment les bateaux. Mais par contre, je rêvais beaucoup que plus tard, quand je serais grand, je ferais le tour du monde sur un deltaplane ou sur avec des chiens de traîneau, des choses comme ça. Et à l'adolescence, au niveau scolaire, je ne m'installais pas trop bien. Donc j'étais dans un internat, mais qui se trouvait sur une côte, sur une partie où il y avait un port aussi. Et là, j'ai aperçu les bateaux pour la première fois. Et aussi, je suis rentré, j'ai poussé la porte de la bibliothèque pour la première fois aussi de ma vie. Et là, il y avait plein d'ouvrages de navigateurs qui avaient déjà fait des tours du monde. Et là, il y a eu une révélation. Et c'est là que j'ai dit, ce truc-là, c'est fait pour moi.
Donc le projet, c'était de faire un tour du monde, mais qu'importe le moyen finalement. Donc au début de ce rêve d'ailleurs, de voyage et de rencontre, c'était pas du tout la mer qui t'était prédestinée.
Non, il n'y avait pas le bateau, mais il fallait quand même, il y a quelque chose de technique. Et le bateau a complété tout ce qui manquait. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait du bricolage, de création, d'avoir de la technique aussi avec les voiles. Et puis ce côté d'infini. Donc c'était pas que le tour du monde, c'était le tour du monde en bateau qui là c'était devenu la révélation.
Alors ce que nous on voit pas dans le micro, on va essayer de redonner un petit peu une dimension visuelle, parce que hier j'ai eu la chance de voir ce documentaire Baluchon 4 mètres autour du monde. Ça c'est le documentaire que j'ai pu voir ici au festival de Lons-le-Saunier. Donc j'aimerais bien qu'on redonne un peu cette dimension visuelle à toi auditeur qui nous écoute, parce que là on parle d'un tour du monde en bateau, mais il y a bateau et bateau, et ton bateau à toi il est juste dingue, hein. On parle vraiment d'un tout petit bateau que tu as auto-construit, qui n'est absolument pas homologué, que tu mets à l'eau et tu te lances pour un tour du monde sans vraiment savoir comment ça va se passer.
Oui, voilà, c'est un bateau qui est fait pour moi, et c'est un bateau qui est... Moi, je me considère pas comme quelqu'un de sérieux, donc c'est pas un bateau sérieux. Ça ressemble un petit peu à un optimiste, ce que utilisent les enfants pour apprendre à faire de la navigation. Sauf que moi, il est un tout petit peu plus grand et il y a une cabine dessus pour pouvoir me mettre à l'abri. Voilà, c'est le bateau le plus simple possible. Donc c'est totalement à l'opposé de tout ce que les gens veulent en bateau maintenant, qui veulent des bateaux très rapides, très compliqués, très chers, mais aussi très fragiles. Et donc moi, finalement, c'est un bateau qui n'est pas à la mode du tout.
Oui, parce que quand on imagine bateau, on imagine des catamarans, des beaux voiliers. Et là, quand on voit la tête de ton bateau, bah, décris-le nous. Donc 4 mètres de long, c'est vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas moyen de sortir de cette coquille. Tu ne peux pas marcher ou tourner sur le pont de ton bateau. C'est vraiment, t'es comme... sur une coquille noire qui flotte, dans laquelle tu es quasiment immobile.
Voilà, mais je dis souvent que c'est une capsule spatiale, mais sauf qu'elle est sur la mer, quoi. Donc voilà, c'est une petite bulle qui se déplace, et voilà, c'est un autre concept que les bateaux, évidemment, où il y a tout confort. C'est des maisons flottantes, pratiquement, ou des bateaux de course qui sont des hautes technologies. Donc là, c'est tout l'inverse aussi, voilà.
Tu peux nous le décrire et nous parler de la préparation de ton bateau, combien de temps tu as mis à l'autoconstruire, et quel est le coût d'un bateau comme celui-là qui t'a emmené sur les routes, pas sur les routes, sur les mers du monde.
Alors c'est un bateau qui j'ai voulu aussi le plus simple possible. Alors ce qui a déterminé la forme et la taille de ce bateau, c'était le budget que j'avais au départ. Donc j'avais 4000 euros sur mon compte en banque. Je dis mais il me faut un bateau qui rentre dans 4000 euros, que je peux construire pour 4000 euros. Et donc ça donnait un peu cette forme un peu bizarre aussi. Et je voulais aussi que le bateau soit très rapide à construire. parce que je voulais pas perdre des années à faire des bateaux. Le but c'était pas de faire un bateau très fignolé ou très joli pour épater la galerie, c'était le bateau le plus en adéquation avec mon porte-monnaie, avec mon temps et avec mes envies aussi de grand large, quoi. Donc voilà, ça donnait cette forme, c'est une synthèse finalement.
Mais donc c'est possible avec 4000 euros de créer un bateau qui tient la mer?
Bah oui. Alors honnêtement, j'ai construit le bateau pour 4000 euros, mais j'ai rajouté un peu d'équipement. J'ai acheté un panneau solaire, puis deux ou trois petites bricoles. Donc il y en a, enfin pour moins de 5000 euros, enfin 5000, entre 5 et 6000 euros, le bateau a fait le tour du monde, quoi.
Donc là, tes amis, peut-être ta famille, en tout cas les gens autour de toi, te voient t'agiter sur ce projet de faire un bateau, voient le projet qui prend forme, hein, et voient que finalement tu es vraiment déterminé à aller au bout de ton rêve. Que pensent les gens de ce projet qui peut paraître peut-être un peu fou ou un peu insensé vu de l'extérieur ?
Bah justement, comme ça paraît un peu fou, il faut essayer d'être le plus discret, enfin pas raconter qu'on va faire le tour du monde. D'ailleurs, si tu racontes ça, quand les gens voient le bateau, que tu lui dis que tu vas faire un tour du monde, ils se mettent à rigoler. Donc bon, voilà, c'est pas la peine non plus d'en rajouter des caisses. Il faut faire ses petites affaires dans son coin et puis pas en parler à tout le monde, quoi.
Donc le dicton populaire, vivons heureux, vivons cachés, pour toi fait sens ?
Bah, un petit peu, oui. Puis bon, bah, c'est vrai que le projet paraît complètement incohérent vis-à-vis des autres. Donc, puis c'est une perte d'énergie d'essayer de l'expliquer. Mon but n'est pas d'avoir l'aval des autres. Je fais mon délire moi-même. Et voilà.
Mais c'est ça, c'est vraiment un délire. Et quand on a un délire, bah, des fois, on se rend compte peut-être de la faisabilité ou de la non-faisabilité du projet. Mais toi, tu n'as jamais douté que c'était possible de faire un tour du monde avec un bateau autoconstruit sans homologation. Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, pour pouvoir partir en bateau, j'y connais rien. Je ne suis pas breton, je n'ai pas le pied marin, mais j'imagine que pour pouvoir prendre le large, il y a peut-être un système d'homologation ou je sais, comment ça fonctionne ?
Bah, oui, c'est un petit peu comme les voitures. Mais bon, comme tu construis tout seul dans ton garage, il faut des certifications de bureaux d'études très complexes. Enfin, faut fournir des documents que tu ne peux pas fournir finalement. C'est comme si tu construisais ta voiture dans ton garage, tu vas forcément pas avoir de carte grise. Donc mais bon, il faut pas se poser trop de questions non plus, sinon on fait rien du tout.
C'est vrai, ça, ne pas poser de questions et peut-être aussi arriver à ne pas avoir peur, parce qu'on se rend compte que c'est souvent la peur de se mettre en mouvement, la peur de se mettre en action qui fait que il y a plein de projets qui n'aboutissent pas.
Alors le plus dur j'ai pas vraiment eu peur pendant ce trajet, mais la plus grosse peur, c'est de tout larguer, c'est de prendre la décision, quoi, finalement. Surtout moi, j'avais un boulot, c'est pas un boulot passionnant, mais qui était un boulot sûr. J'étais fonctionnaire à la DDE, donc j'étais sur les routes. J'étais vraiment pas fait pour ça, mais j'avais tous les mois quelque chose qui tombait et j'avais une vie qui pouvait être très confortable. Mais ça me convenait pas du tout, donc j'ai préféré larguer les amarres et démissionner. Ce qui se fait pas trop dans le milieu quand on est fonctionnaire, mais bon. Et c'est ça qui a demandé le plus d'énergie et de lutter contre ces appréhensions, quoi. Mais une fois que ça s'est fait, hop, c'est bon, ça part. On s'est libéré de certaines contraintes, quoi.
Et avant ce tour du monde que tu as fait, on va en parler un peu plus en profondeur, hein. Je vais te demander de nous emmener avec nous en mer et nous raconter un petit peu tes journées. Mais avant donc ce tour du monde en bateau, est-ce que tu avais déjà voyagé par d'autres moyens en dehors de la Bretagne ?
Alors, j'ai appris le bateau en parfait autodidacte, et donc j'ai fait des tours dans l'eau de plus en plus grandes. Donc j'ai fait déjà une traversée de l'Atlantique avec mon bateau, mais je ne voyage qu'en bateau.
Okay. Donc c'est vraiment le bateau qui est devenu ton moyen de locomotion, quoi. Tu t'es pas, parce que tu disais au début, ton rêve d'enfant c'était de faire un tour du monde. Tu parlais deltaplane ou d'autres moyens.
C'était un petit peu les prémices de, comme je connaissais pas le bateau, mais je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais c'était le bateau qui était finalement le voyage en bateau, c'est pas vraiment du voyage, c'est un petit peu comme des sensations. Il y a une grosse part de sensations de liberté, un peu comme un oiseau qui s'envole, quoi. Sur un bateau, on a ces voiles qui se déploient. C'est plutôt le fait de prendre l'instant présent. C'est pas le fait de voyager. Le voyager, c'est importe peu. Ce qu'il faut, c'est voler sur les océans. Et c'est plutôt ça l'essence de ce projet, quoi.
Donc voilà, tu prépares ton projet, tu construis ton bateau dans ton garage. Apparemment, tu as un bon bricoleur, parce que pour faire un bateau, j'imagine qu'il y a une grande partie de savoir-faire.
D'apprendre un petit peu. Déjà, il faut se trouver un bateau, donc faut en trouver un qui est en fonction de ses moyens, donc forcément en très mauvais état, qu'il faut retaper, et puis essayer après d'apprendre la navigation. J'ai jamais été dans une école de voile, donc j'ai appris tout seul. Donc forcément, on fait des erreurs, et donc ça prend du temps. Et puis il faut bricoler beaucoup, parce que c'est un... C'est un matériel, quoi. Donc, voilà. Ça fait partie aussi de le bateau à voile. Il faut être bricoleur et il faut aimer travailler de ses mains. Quoi. Sinon, ou alors avoir un très très gros porte-monnaie. Mais c'est pas mon cas.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ouais, il y a vraiment cette volonté de montrer qu'on peut faire beaucoup avec peu de moyens. Et donc, tu l'as prouvé, hein, 3 ans sur les mers du monde. Donc, on va partir avec toi. Comment est-ce qu'on prépare ce voyage ou qu'est-ce qu'on met dans son bateau? Quelle est la première destination? Comment est-ce que tu anticipes la faim, la soif? Qu'est-ce que tu emmènes avec toi? Qu'est-ce que tu emmènes comme instrument de navigation aussi? Donc voilà, essaie de nous emmener avec toi dans cette préparation avant le J-1, t'assurer que tout est là dans ton bateau pour passer les, je sais pas, 3, 4, 5, 6 prochaines semaines.
Il faut essayer de ramener c'est comme à la maison, quoi. Il faut essayer d'avoir des provisions un petit peu pour. Bon, le problème le plus important sur un bateau, c'est l'eau. Parce qu'évidemment, on ne peut pas ouvrir un robinet et puis l'eau n'arrive pas d'un tuyau fait par d'autres. Donc il faut emmener son eau, quoi. Donc il faut prévoir un petit peu de quoi subsister. Par exemple, traverser de l'Atlantique, c'est une trentaine de jours, donc il faut emmener 2 litres par jour, il faut emmener au moins 60 litres d'eau, quoi. Et puis si ça diminue trop, il faut se rationner, et puis dès qu'il pleut, il faut essayer d'en récupérer, enfin il faut essayer de gérer son temps comme ça, quoi.
Comment est-ce qu'on anticipe la durée d'une traversée? J'imagine que ça dépend de la puissance de ton moteur, ça dépend peut-être des vents. Comment est-ce que tu peux dire qu'une traversée va durer 3 semaines, 5 semaines, 6 semaines? Comment tu anticipes ça et comment est-ce que tu emmènes des provisions nécessaires pour pouvoir couvrir cette durée en mer?
Actuellement, tout est un peu cartographié, on sait les distances qu'il y a. Il n'y a pas de moteur sur mon bateau, il n'y a absolument pas aucun moteur. Mais on a des moyennes, c'est l'expérience qui fait ça. Et puis on essaye, on sait qu'il y a toujours un peu de vent au large. Donc on sait, et puis il y a des vents dominants, donc on sait à peu près vers où aller. Mais ça peut très bien, effectivement, on peut très bien. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rallonger beaucoup, beaucoup la durée d'une traversée parce qu'il n'y avait pas de vent, donc on attend comme ça.
Et tu dis, je savais où aller, mais comment est-ce qu'on sait où aller quand on est au milieu de nulle part?
Ah, par exemple, si on est au milieu de l'Atlantique, on fait cap à l'ouest, on va arriver en Amérique. Voilà. Il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Voilà, il y a pas de. On n'est pas comme sur la Terre où il y a des routes et tout. Là, on va tout droit. Enfin, on va où on peut. Et puis, on arrivera bien un jour quelque part.
Mais ça paraît presque trop simple à t'entendre. On a l'impression que c'est facile de faire un tour du monde sur un tout petit bateau. Peut-être pas, non? Quelles sont les difficultés?
Les difficultés sont probablement assez. C'est psychologique. On n'est pas dans un milieu dans lequel on est fait, nous autres êtres humains. Donc c'est arrivé plusieurs fois. Dans les grosses tempêtes, les gens déclenchent leur balise de détresse et se font récupérer. Et on retrouve le bateau plusieurs mois plus tard à dériver ailleurs sur la planète, quoi. Donc ces gens-là seraient restés dans leur bateau. Ils n'auraient pas connu le stress et l'angoisse de la mer. Ils n'auraient pas eu besoin de demander de l'aide. On aurait retrouvé leur bateau un peu plus loin, sur un cramant de fortune. Mais le bateau, tant qu'il flotte, c'est bon.
Oui, parce que là, quand tu pars, donc tu parles de balise de détresse, je me rends pas bien compte, mais quand on est en pleine mer, déjà on est seul, au milieu de nulle part, il n'y a pas moyen de faire demi-tour, ou d'appeler quelqu'un. Le téléphone ne passe pas, la 5G, il n'y a pas. Donc comment fait-on si on veut rester en lien, communiquer avec la Terre?
Alors maintenant, il y a plein de systèmes de communication par satellite, moi que j'avais pas. Mais quand je suis en mer, je suis tout seul, il n'y a pas de moyen de communication. Mais maintenant, on voit bien sur les grandes courses, hein, il y a presque tous les jours, les marins font des vidéos, des vacations avec la Terre. Mais moi, je n'avais pas ça, mais il y a des moyens techniques aujourd'hui de communiquer avec la Terre.
Toi, tu avais quoi comme matériel embarqué en technique?
J'avais mon smartphone. Dans tous les smartphones, maintenant, il y a une puce GPS. Alors, ça n'a rien à voir avec le réseau téléphonique. On ne capte pas le réseau téléphonique en pleine mer, bien sûr, mais on a sa position. Et donc, avec ça, je pouvais me diriger à peu près.
Alors, la question qu'on se pose quand on voit ton documentaire, c'est qu'on comprend que tu es vraiment sur un tout petit bateau, tout seul, au milieu de l'immensité de l'océan. Comment est-ce qu'on gère, sur des semaines comme ça, le fait de se retrouver loin de ses semblables, loin des hommes?
Alors, il faut être, je pense, d'une nature à la base assez solitaire. Et il faut être aussi contemplatif. Il faut aimer rester des jours et des jours à regarder le ciel. Et puis, c'est un rêve que j'ai depuis toujours aussi. Donc, c'est l'endroit où je me sens bien. Il n'y a, y a pas d'interaction avec les autres, il n'y a pas de pression. Donc, on fait ce qu'on veut. Il y a juste la mer, le vent et soi. Et son bateau, bien sûr.
Oui, et ballotté. Comment est-ce qu'on peut se sentir bien en étant toute la journée, finalement, en mouvement, ballotté de manière permanente et des fois extrême avec les vents, les vagues, les temps.
Ça, on s'habitue, et puis je pense le fait d'être bien là, ça fait des années qu'on rêve d'être là et qu'on a fait des efforts pour construire le bateau. On est bien là dans son élément, quoi. Puis, non, ça me dérange pas du tout, le fait de l'inconfort me dérange pas du tout, et la solitude me dérange pas du tout non plus.
Et comment on occupe ces journées alors? Parce que j'imagine le bateau avance tout seul une fois qu'on a chopé la, je sais pas comment on appelle ça, le cap, hein, c'est ça, hein, les vents, donc le bateau avec sa voile vogue sur les océans. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta petite coquille pendant toutes ces heures, toutes ces journées qui passent?
Alors je fais plein de souches de passionnantes, je regarde le ciel, je rêvasse, je lis beaucoup aussi parce que j'ai une petite liseuse avec des milliers de bouquins. J'écoute de la musique quelquefois, des podcasts quand ça me prend, ou des fois je ne fais rien du tout et je suis bien aussi, voilà, et c'est tout. Bon, après il faut préparer juste un peu de repas, mais ça vaut vraiment rien du tout. Mais bon voilà, il faut être assez contemplatif quand même pour être bien tout seul sur son petit bateau, quoi.
Alors les repas, parlons-en des repas. Qu'est-ce que tu manges? Comment tu cuisines dans ton petit bateau?
Alors moi, comme à terre, la nourriture, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Je suis pas du tout un épicurien. Moi, tu me donnes des boîtes de sardines et des nouilles chinoises tous les jours, ça n'influe en rien du tout sur mon moral. Hein. C'est juste bon, manger c'est nécessaire, mais je vais pas faire des kilomètres pour manger. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout, la nourriture, quoi. Je suis assez ascétique à vrai dire pour être à la base.
Et donc on peut se nourrir comme ça de nouilles chinoises et de sardines plusieurs semaines sans carence et sans tomber malade?
Sans carence, sûrement qu'on a des carences, mais bon, après, et puis bon, l'avantage de mon voyage, c'est que partout où je passais après avec mon petit bateau, le bateau a vraiment une forme et il interpelle beaucoup, donc tout le monde était un peu étonné de voir ce bateau. Donc j'étais invité à manger, à boire l'apéro un peu partout à chaque escale, donc forcément que les carences s'éliminaient comme ça.
C'est vrai qu'il y a un capital sympathie qui est énorme, déjà quand on voit le personnage avec tes yeux brillants, ton sourire incroyable, et puis quand on voit ce que tu as réalisé, c'est juste hors du commun. Donc pour reposer auditeur, Yann Kenet, donc tu as fait le choix de partir sur les mers du monde avec un bateau que tu as fait, construit dans ton garage pour 4 000 euros, et là tu te lances pour cette longue aventure qui va durer 3 ans, 3 ans en mer, avec quand même bien sûr des escales. Donc on va parler de l'itinéraire, et j'aimerais bien savoir aussi combien de temps, quand tu arrives sur un continent, tu te poses avant de reprendre le large.
Alors,
peut-être l'itinéraire d'abord, voilà, raconte-nous un peu ton tour du monde. Donc tu pars de Bretagne, et à partir de là, quelle est l'idée? Est-ce que tu sais déjà combien de temps ça va durer?
Alors oui, à peu près, c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire le tour du monde en respectant les saisons aussi. Alors mon but, c'était de suivre les alizés. Alors les alizés, c'est des vents qui se trouvent au niveau des tropiques et qui font le tour de la Terre d'est en ouest, sur toute la surface du globe, quoi. Donc c'était d'essayer de les attraper. Donc en Bretagne, on n'a pas les alizés, non, bien sûr, mais il faut essayer de descendre le plus loin possible après les Canaries, les îles Canaries, au large de l'Afrique. Et à un certain niveau, on arrive à les attraper. C'est des vents qui vont nous pousser après tout le reste du temps sur toute la surface du globe. Et donc voilà, c'est de parcourir la planète d'est en ouest, après les Canaries, les Antilles, après le canal de Panama, après on rentre dans le Pacifique, et aussi la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, l'océan Indien, l'Afrique du Sud, puis après retourner dans l'Atlantique. Et là, j'avais un petit truc, un peu de temps à perdre aussi, je suis reparti au Brésil, et puis je suis revenu à la maison 3 ans après, quoi.
Voilà, est-ce que tu sais déjà, quand tu arrives sur une île, combien de temps tu vas y rester, ou ça va dépendre des rencontres, de tes envies, comment ça se passe?
Alors ça dépend, oui, des rencontres, des envies, des saisons aussi, qu'il faut attendre les bonnes saisons pour partir. Mais c'est surtout, il y a eu un truc, je ne sais pas si tu es au courant, il y a eu un virus qui a bloqué toute la planète à une époque, et j'étais en plein dedans, et donc ça a réduit le nombre d'escales possibles, et aussi, au moment où je suis resté bloqué en Nouvelle-Calédonie, parce que toutes les frontières étaient bloquées pour continuer après. Mon rêve était aussi d'aller en Australie, et donc j'ai attendu pas mal de temps en Australie, presque 6 mois en Nouvelle-Calédonie. Finalement, comme tout était bloqué, j'ai continué traverser tout l'océan Indien d'une traite sans escale pour continuer le voyage, quoi. Mais ça n'empêche que ça permet de naviguer plus, finalement, et je n'ai pas regretté cette option. Et puis, comme je repars pour un autre tour du monde, les escales que j'ai loupées, je les ferai la prochaine fois.
Oui, parce que ton documentaire raconte qu'il y a une escale ou une étape qui part de Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'île de la Réunion. Et ça fait quoi? Ça fait combien de kilomètres? Donc entre la Nouvelle-Calédonie et la Réunion, 13 ou 14 000 kilomètres, tu te retrouves donc seul dans ta coquille de noix à manger des nouilles chinoises et des sardines en pleine mer pour relier en 6 semaines, 8 semaines?
En 77 jours, donc oui, ça fait un peu plus de 2 mois et demi, quoi.
Et tout ça en plein Covid. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que comment ça se passe quand on est en pleine mer et qu'on arrive quelque part? Forcément, on était déjà confiné. Donc est-ce qu'il y a un deuxième confinement pour pouvoir avoir le droit de sortir de son bateau, ou est-ce qu'on estime que le temps passé en mer suffit?
Ah bah non, mais les autorités ont fait preuve de beaucoup de logique pendant ces périodes-là. Faut se remettre, il y a eu un petit moment de panique. Forcément, même si tu arrives, là, quand j'ai appris qu'il y avait le Covid, j'étais arrivé aux îles Marquises, j'avais fait 44 jours de mer, mais j'ai eu à faire 14 jours d'isolement avant de descendre à terre. Donc ça faisait 60 jours sans voir personne, forcément que tu n'avais pas le Covid. Mais enfin bon, les règles, faut se remettre dans l'époque où il y avait un peu de folie, la personne savait de quoi c'était. De quoi ça allait être fait, donc forcément maintenant ça peut prêter à rire, mais voilà.
Incroyable, donc en arrivant après 40 jours de traversée, on te redemande de te confiner encore 2 semaines pour pouvoir sortir de ton bateau. Voilà, c'est
voilà,
dingue.
Voilà. Bah oui, bah c'était bref.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et comment ça se passe quand on arrive? Alors encore une fois, moi je vis dans les montagnes, donc je connais rien du milieu marin et océanique, mais j'imagine que quand tu arrives dans un port, il faut s'annoncer. Comment est-ce qu'on arrive comme ça dans un nouveau pays, et quel est l'accueil qui t'est réservé quand les gens te voient arriver avec ton tout petit bateau, avec Baluchon et ses 4 mètres de long?
Ah bah alors il y a des règles pour arriver dans les ports, quoi. Il y a des services d'immigration, des douanes et plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que en plus, au fur et à mesure que j'avançais, il y a une sorte de petite médiatisation autour de mon projet. Donc même à l'étranger, les gens étaient au courant de mon petit bateau. Donc ça créait un capital sympathique qui facilitait grandement les choses, quoi. Ou alors il y avait quelqu'un qui connaissait ou qui connaissait bien les rouages des administrations des pays à visiter qui m'emmenait dans sa voiture faire toutes les démarches. Et donc souvent ça s'est assez bien passé, quoi.
Donc on peut voyager sur un bateau non homologué?
Ah mais ça c'est pour l'administration française, il est homologué sans être homologué, enfin c'est un petit peu comme je suis un petit peu hors des règles, je suis en dessous de certaines tailles et tout, donc voilà, je passe un peu en dehors des expertises maritimes, quoi.
Dans ton documentaire, il y a donc ce passage où quand on passe de l'océan Atlantique au Pacifique, on passe par le canal de Panama, c'est ça, hein? Et là, donc ce canal-là, je crois que c'est la seule option possible pour passer d'un océan à un autre. Et comment ça se passe pour toi et ton petit bateau?
Ah bah là, par contre, là, administrativement, c'était un peu difficile parce que le canal est fait pour des gros, gros bateaux. Alors un petit bateau comme le mien, effectivement, ça ne pouvait pas rentrer dans les catégories, et il y avait plein de contraintes qui faisaient que je pouvais pas vraiment passer dans le canal, quoi. Donc l'avantage aussi d'un tout petit bateau de 4 mètres, c'est qu'on peut le mettre, c'est un bateau de poche, donc on peut le mettre pratiquement dans sa poche. J'ai trouvé quelqu'un avec une voiture et une remorque, et il y a 80 km à passer, et on a mis le bateau sur la remorque, et on a réussi à passer côté Pacifique sans encombre, quoi.
Okay. Donc Baluchon 4 mètres, de quoi tu remontes sur ton bateau, tu finis tes 3 ans autour du monde. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces 3 années sur les océans du monde? Qu'est-ce que tu partages le plus souvent?
Alors c'est difficile, c'est plein de moments merveilleux. Voilà. Alors c'est difficile à expliquer, c'est des couchers de soleil, des oiseaux de mer, des baleines, des dauphins, des fois aussi qu'on arrive, un moment fort qui me vient, c'est quand j'arrive aux Marquises après 45 jours de mer, De voir les îles Marquises qui arrivent pour de vrai, tu te demandes si c'est la vérité ou si c'est la réalité ou si c'est le rêve. T'as tellement rêvé d'aller aux îles Marquises quand t'étais petit que là, bah, c'est en vrai. Et tu te dis, mais comment que c'est possible, un petit bonhomme comme moi sur un tout petit bateau, est-ce que c'est pas... On se pince pour voir si on rêve pas, quoi. Donc c'est des moments forts un peu comme ça, des petites touches qui sont vraiment très, très intenses, quoi.
Il y a un film qui m'avait beaucoup marqué, Into the Wild. C'est un jeune homme qui fait le choix de partir. Alors lui, il voyage de manière terrestre, il brûle son passeport. Et puis, il entame un voyage un peu initiatique, je crois que c'est aux États-Unis ou au Canada. Et sur la fin de son documentaire, il y a une citation qui m'avait beaucoup parlé. Happiness is real if shared. Le bonheur est réel si partagé. Donc tu dis qu'il y a plein de moments magnifiques et merveilleux sur ton bateau. Mais quand on vit quelque chose d'intense et de beau, est-ce qu'on n'a pas envie de le partager ?
Je l'ai partagé sans le vouloir, avec le documentaire dont tu parles, et bien le film. Mais c'est, à la base, j'avais pas l'impression que les gens... Enfin, je trouvais pas que c'était assez nécessaire, enfin assez beau pour que je le partage avec quelqu'un. Donc finalement, je l'ai partagé sans le vouloir. Sur le coup, c'est des bonheurs solitaires aussi. J'étais bien sur mon bateau, comme un oiseau qui s'envole, quoi. Est-ce qu'il a besoin de partager qu'il est bien heureux à voler dans l'océan ? Ça, je suis pas sûr, mais donc je pense qu'on peut vivre très heureux tout seul sur une île déserte aussi. Donc voilà.
La nuit, tu fais quoi ? Tu regardes les étoiles, tu dors ? Comment se passent les nuits sur un bateau ?
Un petit peu comme les journées, c'est rythmé, c'est le bateau qui rythme le sommeil, quoi. Donc des fois il y a un peu trop de vent, il faut réduire la toile, ou il faut en rajouter, ou le cap est pas bon, donc il faut en corriger. Donc il y a plein de petites choses à faire qui sont pas très contraignantes, mais qu'il faut faire quand même. Et puis après, bah, c'est pareil, lire ou rêvasser, ou écrire, ou dessiner des trucs, sur des idées comme ça qui viennent, et puis ou réfléchir à des concepts. Je réfléchis beaucoup aussi à des formes de bateaux, donc voilà, ça occupe pratiquement toutes ces nuits, toutes ces journées, quoi.
Dans ton documentaire, je crois que tu parles à un moment donné de tes nouilles chinoises et tes sardines, où tu arrives à te rationner parce que tu n'as plus forcément assez. Donc tu manges vraiment que ça, que des nouilles chinoises et des sardines à raison d'un paquet par jour, c'est ça ? Comment ça se passe ?
C'est arrivé une traversée que j'avais estimée pour 40 jours. Et 63 jours plus tard, j'étais toujours pas arrivé. Donc, même si j'avais pris quelques paquets en plus, il fallait se rationner. Oui, donc, voilà. C'est pas très grave en soi.
Se rationner, ça veut dire quoi ? Tu manges quoi alors sur ton bateau ? Un paquet par jour ? Un demi-paquet par jour ?
Oui, à la fin, c'était un demi-paquet. Bah, s'il reste, on va encore mettre au moins 10 jours, donc il reste 5 paquets, ça fait un demi-paquet par jour. Voilà.
Et le fait d'être comme ça sur un petit bateau, physiquement, être dans une forme d'inaction ou dans l'action, je ne me rends pas trop compte.
Oui, alors le bateau bouge énormément. C'est comme une cage de hamster ou comme une machine à laver en mode essorage. Et donc à l'intérieur, on est tout le temps en train de se tenir et de compenser les mouvements du bateau. Donc c'est presque mieux qu'une salle de gym.
Donc on est vraiment tout le temps en mouvement pour compenser le mouvement du bateau. Et comment on fait quand il y a une grosse tempête et qu'on est au milieu de nulle part ? Est-ce que tu es tenté de faire, tu me parlais avant de gens qui affrontent des tempêtes et qui sortent les fusées détresse et qui se font récupérer. Est-ce que tu as été tenté aussi qu'on vienne te chercher et te dire c'est bon, là j'arrête ?
Non, pas vraiment. Mais j'ai peut-être pas non plus connu des tempêtes extrêmes. J'ai connu des tempêtes, mais. Et puis moi je passe des grandes traversées en plein milieu où là il n'y a personne, tu peux déclencher ta balise de détresse, il n'y aura personne avant des jours et des jours qui viennent te chercher. Donc. C'est pas la peine non plus. Puis moi, j'aime pas déranger trop les gens, donc voilà.
Et donc, tu es là sur ce festival pour présenter ce documentaire. Donc, je crois que tu expliquais hier que c'était pas un projet que tu avais de faire un film. C'est plutôt, on t'a proposé d'en faire un pour que tu puisses partager le plus largement possible ton expérience. Donc voilà, comment ça s'est passé, cette histoire de documentaire ?
Alors, c'est un petit peu l'histoire de ce voyage. C'est-à-dire que j'ai fait que des... Moi, à la base, peut-être, j'ai voulu faire ce voyage pour fuir un peu les gens. Et finalement, c'est tout le contraire. Au fur et à mesure que j'avançais, je rencontrais plein de gens. Et donc, c'est ça qui m'a été un peu étonnant. Donc, ça c'est commencé par un livre. C'est un éditeur de Le Cherche Midi, une grosse maison d'édition à Paris, qui m'a contacté pour faire un livre, pour que j'écrive un livre, parce que j'écrivais des petits résumés sur des réseaux sociaux. Et donc, l'éditeur a trouvé qu'il y avait une matière à faire quelque chose. Donc, il m'a contacté. D'habitude, c'est nous qui essayons de contacter des éditeurs pour si on veut écrire quelque chose. Et là, c'est tout le contraire. Et pareil pour le film documentaire. C'est une équipe que j'ai croisée à La Réunion qui m'a dit « Mais il faut faire un film avec ton histoire ». Et je dis, bah oui, mais j'ai pas d'image, j'ai pas emmené de caméra, j'ai rien. Et donc, c'est pareil, ils ont essayé à récupérer plein d'images. Parce que partout où je passais, évidemment, les gens, c'était tellement étonnant, mon affaire, qu'il y avait plein d'images un peu sur les réseaux sociaux, mais de très mauvaise qualité. Donc, ils ont réussi et en me filant une caméra pour la fin du parcours, à faire un film documentaire sur mon voyage. Un petit peu sans, pas malgré moi, parce qu'évidemment j'ai donné mon accord, mais j'ai pas eu la volonté de faire un film, quoi, ni un livre.
Et là, tu repars pour une aventure. Donc, parle-nous de ce nouveau projet à venir.
Bah, c'est pareil, c'est pas très sérieux. C'est un nouveau tour du monde. Mais cette fois, je vais essayer de passer par le Canada, parce que c'est un rêve aussi que j'ai, un rêve à la Jack London. Donc, je vais essayer de passer par le Canada. Alors, comme le bateau est transportable, je vais essayer de trouver un moyen de transport par voie terrestre, après avoir remonté le Saint-Laurent le plus loin possible, pour rejoindre la côte pacifique. Je vais essayer de transporter Baluchon par la terre. Et donc voilà, c'est pas sérieux. Après, une fois dans le Pacifique, je continuerai un tour du monde qui prendra 3 ans, 4 ans, 10 ans, je sais pas. Voilà, c'est une balade sans prétention, quoi.
Donc là, pareil, tu pars avec Baluchon, hein, c'est ça, dans la même configuration? Est-ce que c'est une version améliorée de Baluchon?
Oui, c'est une version un peu améliorée. Moi, je me suis amélioré pendant ce trajet, donc j'ai amélioré Baluchon aussi. Donc on part tous les deux comme ça, comme des vieux potes, et puis on verra jusqu'où ça va aller.
Et si tu avais, je sais pas, une leçon de vie à partager, de toutes tes réflexions, de toutes tes rêveries, qu'est-ce que la mer t'a appris et qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous?
Si vous avez un projet, un rêve, surtout, il ne faut pas attendre. Il faut le faire immédiatement et pas se poser de questions et pas attendre l'aval des autres, parce que vous ne l'aurez jamais. Il y aura toujours des gens qui vous diront que c'est trop dangereux ou si ou ça. Il faut faire son affaire et même si c'est dangereux, c'est pas grave, on n'est pas des gens. La Terre continuera de tourner. Donc les rêves sont plus importants que tout, quoi.
Ouais, donc ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves.
Exactement.
Merci Yann.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.